des musées d'uniformes maculés de sang et de lunettes brisées par le martyr, et nous en sommes fiers, car chaque martyr est un coquelicot qui est rouge, qui est un peu de beauté qui est ce monde. Nous avons fabriqué un peuple liquide et rouge. Il vit dans la mort et est heureux en paradis. Nous avons tendu une toile noire sur le paradis pour le protéger du soleil. Nous avons lavé nos cadavres dans la rivière du paradis. Paradis est un mont persan. Nous y donnons à boire aux passants l'eau de la mort sous les tentes noires du deuil. Paradis est le nom de notre pays, des cimetières où nous vivons, le nom du sacrifice. Parviz ne savait pas parler en prose, pas en français en tout cas. En persan, il gardait sa noirceur et son pessimisme pour ses poèmes. Il était beaucoup moins grave, plein d'humour. Ceux qui, comme Faugier ou Sarah, connaissaient assez bien la langue pour en profiter, riaient souvent aux éclats. Il racontait avec plaisir des histoires drôles, salaces, dont on se serait étonné partout ailleurs dans le monde qu'un grand poète les connaisse. Parviz parlait aussi souvent de son enfance à Com dans les années 1950. Son père était un religieux, un penseur, qu'il appelle toujours l'homme en noir dans ses textes, si ma mémoire est bonne. C'est grâce à l'homme en noir qu'il lit les philosophes de la tradition persane, depuis Avicenne jusqu'à Ali Shariati et les poètes mystiques. Parviz connaissait par cœur un nombre extraordinaire de vers classiques, de Rumi, de Hafez, de Rodjou, de Nezami, de Bidel, et modernes, de Nima, de Chamlou, de Seperi ou d'Achavan Sales. Une bibliothèque ambulante. Rilke, Essénine, Lorca, Char, il savait sur le bout des doigts, en persan et en version originale, des milliers de poèmes. Le jour de notre rencontre, en apprenant que j'étais viennois, il avait cherché dans sa mémoire, comme on parcourt une anthologie, et était revenu de ce bref voyage intérieur avec un poème de Lorca, en espagnol. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Auquel je ne comprenais goutte, évidemment. Il a fallu qu'il traduise. À Vienne, il y a 10 jeunes filles, une épaule sur laquelle la mort sanglote et une forêt de pigeons empaillés. Puis il m'a regardé très sérieusement et m'a demandé « C'est vrai ? J'y suis jamais allé. » C'est Sarah qui est intervenue à ma place. « Oh, c'est vrai, oui, surtout pour les pigeons empaillés. » Voilà qui est intéressant, une ville taxidermiste. Je n'étais pas sûr que la conversation aille dans un sens qui me fût très favorable, alors j'ai fait les gros yeux à Sarah, ce qui l'a immédiatement réjoui. Voilà l'Autrichien qui se vexe. Il n'y a rien qui ne la mette plus en joie que d'exposer publiquement mes défauts. L'appartement de Parviz était petit mais confortable, rempli de livres et de tapis. Étrangement, il se trouvait dans une avenue au nom de poète, Nezami ou un Thor, je ne sais plus. On oublie facilement les choses importantes. Il faut que j'arrête de penser à voix haute si jamais on m'enregistrait. Quelle honte. J'ai peur de passer pour fou. Pas un fou comme le fou du musée Abguinet ou comme l'ami Bigler, mais un cinglé quand même. Le type qui parle à sa radio et à son ordinateur portable. Qui discute avec Mendelssohn et sa tasse de Red Love acidulée. J'aurais pu rapporter moi aussi un samovar d'Iran, tiens. Je me demande ce que Sarah a fait du sien. Rapporter un samovar plutôt que des disques, des instruments de musique et les œuvres de poètes que je ne comprendrai jamais. Est-ce que je parlais tout seul autrefois? Est-ce que j'inventais des rôles, des voix, des personnages? Mon vieux Mendelssohn, il faut que je t'avoue que je connais en fin de compte assez mal ton œuvre. Que veux-tu? On ne peut pas tout écouter. Tu n'es pas fâché, j'espère. Je connais ta maison, par contre, à Leipzig. Le petit buste de Goethe sur ton bureau. Goethe, ton parrain, ton premier maître. Goethe qui entendit deux enfants prodiges, le petit Mozart et toi. J'ai vu tes aquarelles.